Interview.
1 du jour.
Bonjour à tous, ici Aurélie pour Air d'Ivoi à l'écoute sur le 107.5 FM et sur le site www.rdwa.fr. Alors aujourd'hui, dans l'interview du jour, je reçois Jean-Pierre Rambaud du collectif Défense de l'hôpital de Die. Alors déjà, bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Alors j'ai appris lors de la discussion qu'on vient d'avoir que ce collectif de défense avait été créé en décembre 1986. Alors si vous voulez bien, on va évoquer la genèse de ce collectif, le pourquoi du comment tout simplement.
La genèse, mais pas la totalité, parce que vous voyez, depuis 1986, ça fait, comme on dit, une paye, et en même temps ça ne nous rajeunit pas. Donc en décembre 1986... on ne savait pas trop ce qui se passait et on a tiré un tract, Jean-Louis Simon et moi-même. Jean-Louis est représenté le conseil municipal au conseil d'administration de l'hôpital et moi le conseil général. Et donc, n'arrivons pas à savoir ce qui se passait, nous avons tiré un tract en indiquant « briser le mur du silence ». Et on a fait une réunion publique pour dire aux gens, voilà, il faut qu'on sache, et en même temps, on ne fera rien sans vous. Et on a créé le collectif de défense de l'hôpital. Là-dessus, nous avons eu connaissance d'une lettre envoyée au président du conseil d'administration, qui émanait du préfet, et qui disait, je vous demande de faire fermer les 4 lits de maternité d'ici le 1er mai 1987. Alors, dès le mois de janvier, nous avons fait une manifestation qui a été très, très importante avec le personnel de la maternité, une partie du personnel de l'hôpital, les élus. Avant, d'ailleurs, le personnel de la maternité s'était beaucoup battu parce qu'il sentait que quelque chose se préparait. Et notamment, je pense à une sage-femme qui s'appelle Madame Blanquier, Nicole Blanquier, qui, avec le personnel de la maternité, avait dénoncé ce qui se passait là-bas. D'ailleurs, certains avaient été mutés de service pour raisons disciplinaires. Donc, tout n'est pas dû au collectif de défense de l'hôpital. Ça avait commencé avant.
Donc le collectif arrive comme un réel soutien, avec en plus les preuves qui viennent corroborer les doutes qui étaient,
voilà.
qui étaient là.
Tout à fait. Et donc, nous manifestons en janvier 1987 et nous obtenons un report jusqu'au 1er juillet 1987. Et le 1er juillet approchant, ça devait être au mois de juin, nous avons fait une troisième manifestation et là, j'ai reçu quelques semaines après une lettre du cabinet du ministre qui me disait, compte tenu de l'éloignement de cette maternité, compte tenu de l'attachement de la population, c'est-à-dire qu'il reprenait nos arguments en gros, j'ai décidé de maintenir la maternité de Die. Et depuis, eh bien, ça a été une bataille, pas chaque année, si vous voulez, mais il y a eu des moments de calme. Mais disons que presque tous les 2-3 ans, nous avons dû nous mobiliser et surtout mobiliser la population, parce que si chaque fois nous avons pu obtenir des reports, c'est grâce au mouvement de la population.
Bravo à ce collectif et à cette population effectivement qui vous suit. Donc depuis 1986, on est aujourd'hui en 2014, mars 2014. Donc je crois savoir que l'assemblée générale de ce collectif s'est déroulée là le 26 février. Que s'est-il dit lors de cette assemblée générale ?
Eh bien, lors de cette assemblée générale, il se dit ce qui se dit dans toutes les assemblées générales. On présente les divers rapports, etc. Le plus important, c'est quand même ce qu'a dit le président de l'Agence régionale de santé, Christophe Jacquinet, qui a fait l'objet d'un débat. il a dit à Hospimedia, qui donne l'actualité des territoires de santé, en parlant de son limogeage, puisqu'il a été limogé par le Conseil des ministres du 14 février 2014, j'ai été aussi désavoué sur d'autres dossiers, parce qu'on lui parlait des dossiers où il avait été désavoué par les élus, parce qu'il dit que ce sont les grands élus qui l'ont contraint, notamment la fermeture de la maternité de Die dans la Drôme, contrairement à ce que m'avait dit d'ailleurs une semaine avant, où j'avais le soutien entier du cabinet de la ministre de la Santé, hein, on y reviendra, sur la fermeture. Ensuite, il me dit, j'avais engagé une préparation à la fermeture. Point important sur lequel je voudrais insister, une des raisons du projet de fermeture, était pour concentrer les médecins, surtout les pédiatres, dans les gros établissements, car nous en manquons partout et la situation va devenir critique. Donc, ça corrobore ce que nous avons toujours dit. Les communautés hospitalières de territoire sont faites pour attirer dans les grands hôpitaux qui manquent de personnel ce qu'il y a dans les petits hôpitaux.
Dans les grands hôpitaux, il en manque des pédiatres, c'est sûr. Mais comment peut-on utiliser cet argument au détriment des petits hôpitaux ? C'est purement économique ?
C'est purement économique et c'est de la responsabilité de nombreux gouvernements qui se sont précédés depuis la mise en place du numerus clausus. Je crois que c'était dans les années 70, donc ça remonte à quelques années. Et le numerus clausus a été serré. Et donc, le nombre de praticiens hospitaliers a diminué chaque année, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se trouve en état de crise.
Tout à fait. Ce Christophe Jacquinet, hein, qui est pour le coup ancien directeur général de l'agence de santé, pourquoi a-t-il été limogé ?
Alors ça, c'est au Conseil des ministres de le dire. Lui donne sa version et dit qu'il a été désavoué par les élus qui ont été plus écoutés que lui. Bon, il faudrait savoir ce qu'en pense la ministre de la Santé.
Ah oui, vous ne l'avez pas interrogé sur la question. Comment vous les avez perçues, ces déclarations de ce Christophe Jacquinet ? Comment le collectif peut s'en exprimer aujourd'hui ?
Eh bien, ça montre quand même que s'il n'y avait pas eu la mobilisation de la population, on le voit bien à travers ce qu'il dit, hein, puisqu'il avait le soutien entier du cabinet de la ministre.
Et il avait tout préparé aussi.
Tout était prêt pour la fermeture. Et heureusement, nous sommes intervenus, hein, nous avons fait une réunion publique pour préparer, et on a débouché sur la manifestation du 15 décembre. Cette manifestation, à laquelle ont participé de nombreux d'Ivois et d'Ivoises, a eu un prolongement avec les élus, notamment les conseillers généraux et puis le président du conseil général qui se sont adressés à la ministre et le président du conseil général l'a rencontrée et elle est revenue sur la décision de ce monsieur Jacquinet.
Elle est revenue et pour le coup, est-ce que c'est à ce moment-là que la décision de l'autorisation d'exercer a été prolongée ?
Oui, c'est à cette occasion que l'autorisation de fonctionner a été reportée de 30 mois.
Donc on est à mi-chemin, hein, fermeture prévue donc en juin 2015. Le collectif Défense Hôpital, comment s'active-t-il aujourd'hui ?
Alors nous sommes donc à mi-parcours. Il faut continuer à maintenir la pression. Sinon, eh bien, nous savons ce qui va se passer le 15 juin ou peut-être avant 2015. La pression, elle ne se maintient pas toujours à coup de manifestation. On appelle à des manifestations et la population se mobilise quand le danger est réel à proximité. Donc, dans l'attente, il y a des communiqués de presse et dernièrement, nous avons décidé de participer autour de France, pour l'accès aux soins et pour le droit à la santé qui est organisé par la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux de proximité.
Oui, parce qu'il n'y a pas que l'hôpital de Die hein, qui est touché, c'est toute la France
et oui.
Qui en souffre.
Et donc, nous avons intérêt à avoir cette coopération forte qui existe par l'intermédiaire de notre coordination nationale. Elle a décidé de faire un tour de France de la santé sous forme d'étapes. avec des actions conduites par les différents collectifs ou comités. Ce Tour de France a démarré le 14 décembre à Briançon et il va se poursuivre jusqu'au mois de mai prochain. Donc nous avons décidé en Assemblée Générale de participer et de faire une étape à 10.
Très bien, donc ça se passera où, quand et comment?
Alors, ça se passera le 15 avril à la salle polyvalente. Nous aurons la présence de quelqu'un de la coordination nationale et peut-être d'un représentant de l'étape d'avant. La coordination nationale aura d'ailleurs un livre d'or qu'elle emmène dans chacune de ses pérégrinations. Et le 15 avril, il y aura un débat à 18h à la salle polyvalente sur le thème « L'hôpital public en moyenne montagne ». C'est nous qui avons choisi le thème, ça nous semblait fort approprié. Et ce débat sera suivi à 20h d'un repas festif.
Quand voilà. Même, il ne faut pas oublier.
Il ne faut pas oublier aussi qu'il faut, pour avoir le moral... avoir un peu de gaieté.
Et continuer le combat, hein, tout simplement, on peut le dire. Hein.
Et continuer le combat. C'est donc une étape, là, qui est forte pour nous, pour continuer à nous battre, et à nous battre collectivement, parce que se battre seul dans son coin conduit à l'échec, forcément.
Effectivement, et on l'a vu, hein, quelques petites victoires déjà, hein, grâce au mouvement de la population, au mouvement bien sûr du collectif de défense de l'hôpital. Donc il ne faut pas lâcher, n'hésitez pas, hein, chers auditeurs, à vous y rendre à cette étape d'Oise du 15 avril, donc à la salle polyvalente de Die. Est-ce que Marisol Touraine s'est déjà exprimée autour de ce Tour de France de la santé?
Non. Non, non, elle ne s'est pas exprimée, mais il y a de l'écho selon notre coordination nationale. Il y a beaucoup d'écho dans la presse, les médias, chaque fois qu'il y a une étape. Donc j'espère qu'à Die, comme vous l'avez souligné, il y aura beaucoup de monde pour montrer la détermination et surtout pour s'informer.
Tout à fait. Est-ce qu'elle y est conviée d'ailleurs, cette ministre?
Non, nous avons pensé à la population... parce que c'est elle qui a toujours tranché, hein, quand il l'a fallu. Donc, je vais vous donner le déroulement. Je vous ai donné un certain nombre d'éléments déjà, mais le repas est déjà en préparation. J'ai saisi la coordination nationale pour nous dire rapidement qui viendrait. Et nous allons tirer un tract pour informer à la fois de cette initiative et de la position de Christophe Jacquinet, l'ancien directeur de l'ARS. Et sur ce tract, nous mettrons un papillon de retour pour ceux qui viennent participer au repas festif, puisqu'ils seront déjà... au rassemblement qu'il y aura eu avant.
D'accord. Et lors de ce rassemblement, alors ?
Eh bien, il va y avoir une présentation du collectif qui va être faite par un membre du collectif et puis une intervention du représentant de la coordination nationale et ensuite un débat dans la salle, hein, parce que ce qu'on veut, c'est un débat.
Quels espoirs vous avez aujourd'hui ?
Victor Hugo disait que l'espoir, c'était la lutte, en quelques mots. Hein, voilà. Lutter, c'est vivre, a-t-il écrit. Eh bien, nous nous plaçons dans cette perspective.
Vous avez grand espoir.
Depuis 1986, nous avons grand espoir dans les Dioises et les Dioises et parfois au-delà.
Bientôt 30 ans de combat. Ouais. Toujours la même volonté, la même hargne et le même espoir. C'est beau à voir.
Bien écoutez, si le collectif a de l'espoir, c'est parce que les Dioises se mobilisent, hein. Et parce qu'ils tiennent à leur hôpital.
Cependant, c'est face à des réformes que vous êtes né. Et si ces réformes n'existaient pas, vous ne seriez pas là. Et c'est presque dommage que vous en soyez là, quoi, que nous en soyons là.
Effectivement, c'est pourquoi nous sommes pour l'accès aux soins, pour toutes et tous, sur tout le territoire. Mais ça demande du courage.
Tout à fait.
Ça demande que le gouvernement... prennent ses responsabilités Et à un moment donné, lâche le numerus clausus, et puis peut-être interviennent pour une meilleure répartition des praticiens sur le territoire. Parce qu'il y a une question de répartition. Hein.
Complètement. Une question de répartition. Et moi, j'ai un terme qui me vient comme ça, l'hôpital rentable. Les petits hôpitaux ne sont pas assez rentables. Voilà, c'est triste de voir que la santé est à double vitesse. Hein. Là où il y a de l'argent, on peut. Et là où ça ne rapporte pas assez, ben on supprime. On ferme et on prive, tout simplement.
Je voudrais dire quand même que ce ne sont pas les gros hôpitaux qui sont les mieux lotis. Hein. La Cour des comptes a relevé qu'il y avait deux hôpitaux sur trois qui étaient en cessation de paiement en France.
Oui, donc c'est pas rien. Hein. Okay.
Oui. C'est vraiment pas rien.
Et quels sont ceux qui arrivent à subvenir à leurs besoins, à leurs factures?
Ils y arrivent comment? En diminuant les frais de fonctionnement. Donc en supprimant des emplois, en supprimant des lits, voilà.
Si vous aviez des réformes à proposer au gouvernement, lesquelles seraient-ce?
Celles que j'ai proposées tout à l'heure, et en même temps consacrer plus d'argent à la santé en général. Parce que, vous savez, il y a deux pieds sur lesquels on peut s'appuyer dans une société. Il y a la santé et l'éducation. Il faut savoir prendre ses responsabilités et choisir ses priorités.
On va revenir dans notre DIWA, dans ce qui nous touche plus directement. Voilà, on a évoqué la maternité, mais qu'en est-il de la chirurgie?
Les deux sont liés. Si on a une chirurgie, et ça on l'a senti dès le départ, c'est parce qu'il y a une maternité. Si un accouchement se passe mal, qu'il y ait besoin d'une césarienne, qu'il y ait besoin d'une intervention en urgence, il faut qu'il y ait un chirurgien qui soit présent. Et donc un bloc opératoire actif. Sinon, y a d'énormes risques pour la parturiente. Donc, seule la chirurgie pour l'administration de la santé n'a pas besoin d'exister.
Est-ce que vous êtes en contact avec le personnel soignant de l'hôpital?
Nous avons quelques contacts, pas directs, y compris avec les praticiens.
Quelle morale ont-ils aujourd'hui?
Vous savez, quand les autorisations sont prolongées pour un an et demi, deux ans et demi, comme maintenant, quelles perspectives peuvent-ils avoir? Et quelles perspectives peut avoir quelqu'un qui souhaiterait venir à Die? C'est pourquoi nous réclamons d'avoir des autorisations de fonctionnement pour la maternité et la chirurgie pour 5 ans, comme tous les hôpitaux, puisqu'il faut un renouvellement tous les 5 ans. Là, ça donnerait quand même du souffle à ceux qui sont à l'intérieur et une attirance pour ceux qui veulent venir.
Effectivement, hein, ce n'est pas vraiment attractif. Hein, des plans de 3 ans. 3 ans donc, qui arrivent vite à terme. Hein. J'imagine que ces 3 dernières années, vous ne les avez pas vues passer.
Ben, ces dernières années, qu'est-ce que vous voulez, on a manifesté en 2009, c'est là qu'on a eu la plus grosse manifestation. On a manifesté en 2010, on a manifesté en 2012, on a manifesté en 2013, vous voyez, et puis il n'y a pas eu que les manifestations, il y a eu les blocages routiers, les blocages de train. On a eu également l'occupation du conseil d'administration. Nous avons occupé également le hall d'entrée de l'hôpital pendant 24 heures. Nous y avons couché. Voilà, donc on a varié le nombre d'interventions.
Une réussite notable, on peut le dire, hein. On ne se bat pas pour rien. Peut-être vous voulez ajouter quelque chose, Jean-Pierre Rambeau?
Simplement que ce que dit le directeur de l'ARS Limogé montre quand même que la position que nous avons eue quand certains se réjouissaient de la création de la communauté hospitalière de territoire qui s'appelle Rhône-Vercors, je crois, hein. Nous avons dit à ce moment-là, ça va faire 457 000 habitants. Comment les petits hôpitaux vont pouvoir tirer l'épingle du jeu? Puis surtout, où sera la proximité? Voilà, c'est clair. D'autant que, et ça je veux le souligner, le président de la République a donné comme un délai pour l'accès aux urgences 30 minutes.
Oui, donc là, on est loin. Hein. Pour aller à Cré, donc, il nous faut pas loin de 45 minutes.
Oui.
De l'autre côté, ce serait un gap. Hein. Donc, on est loin des 30 minutes, effectivement, en termes d'urgence.
Déjà, actuellement, certains villages sont à une heure de l'hôpital de Die, dans le Haut-Diwa. Donc, ça en fait deux.
Cré, comment sont-ils lotis ?
Cré n'a plus de maternité. Elle vient de perdre sa chirurgie active et elle fait de la chirurgie de jour.
Donc sur rendez-vous, pas d'urgence.
Non.
Ils n'ont pas réussi à mobiliser les foules. Qu'est-ce qui s'est passé là, Cré ?
Ben, dernièrement, ils se sont mobilisés, mais peut-être étaient-ils trop près de Valence. Voilà.
Finalement, un argument en notre faveur. Nous sommes suffisamment éloignés de Valence, peut-être pour que les demandes soient entendues.
Oui, oui, c'est l'argument de l'exception géographique, qui est reconnu d'ailleurs dans la loi Hôpital Santé de Territoire, qui est néfaste pour les hôpitaux, mais qui a au moins ce point.
C'est déjà ça, j'ai envie de dire. Donc, ce Tour de France de la santé, dont une étape d'Iwaz à la salle polyvalente de Die, donc le 15 avril, avec présentation, représentation, plus conférence, débat à 18h, dès 18h, et puis quand même un repas dès 20h à la salle Po. Bien sûr, vous verrez circuler des flyers et des bons d'inscription. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Hein. N'hésitez pas à vous mobiliser. L'hôpital de Die, sa maternité, son service de chirurgie sont en danger. Hein. Nous arrivons à mi-chemin. Hein. Les 30 mois de sursis s'achèvent donc le 30 juin. Il faut se mobiliser. Il faut se bouger. Merci Jean-Pierre Rambaud du collectif Défense de l'hôpital d'Iwa d'être là, de vous battre depuis plus de 20 ans et de faire que voilà, on a quand même cette chance de l'avoir encore, cette maternité. Merci à vous.
Merci à vous d'avoir si bien résumé l'essentiel à la fin de votre propos.
Je vous souhaite une bonne journée.
Moi aussi.
Vous retrouverez cette interview sur le site www.rdwa.fr dans la rubrique du même nom. Moi, je vous dis à bientôt dans l'interview du jour. Bye bye.
Interview. 1.
Hey, the bird.
L'interview du jour.